Bonsoir à toutes et à tous, voici un nouveau numéro de votre émission littéraire chaque mercredi soir à 21h sur votre radio locale. Wagon Livre vous offre ce soir la possibilité de larguer les amarres, puisqu'il y sera question de bateaux, de péniches, de canots, en somme de batellerie. Et pour tenir la barre, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur d'un très beau texte intitulé « La remorque » paru l'an dernier aux éditions Métayer, Bruno Poissonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Bruno, je vais te tutoyer parce que avant d'enregistrer, nous avons longuement conversé, longuement échangé et partagé. Et donc, on va adopter le tutoiement. Alors, Bruno, pour commencer cette émission, je signalerai aux auditrices et auditeurs de Radion que tu habites au Serre et que tu es né en 1956, que tu as passé une grande partie de ton enfance à la campagne et loin de Lyon, finalement, puisque tu es Vendéen d'origine, c'est bien cela ? Tu es un nomade et tu as exercé à la fois beaucoup de métiers. Et je t'ai dit combien j'avais été impressionné par le choix d'un métier tout à fait original, c'est celui d'apiculteur professionnel. Pour moi, c'est magique. Peut-être parce que les abeilles disparaissent et que les apiculteurs aussi.
Les apiculteurs vont disparaître si les abeilles disparaissent. Je ne sais pas si j'ai choisi ce métier. C'est plutôt le genre de métier qui choisit. J'ai plutôt l'impression d'avoir été choisi pour l'exercer et les abeilles m'ont procuré, et me procurent encore, beaucoup de bonheur.
Donc, tu as été apiculteur professionnel, et puis surtout, une très longue expérience de la batellerie, puisque tu as possédé, pendant plus de 10 ans, ton propre bateau, et tu as navigué sur les fleuves et canaux de France.
Oui, c'est certainement une des expériences qui ont compté le plus dans ma vie, et je pense que je serai toujours désormais un homme de bateau, même si je n'ai plus la chance de... Même si je ne parviens pas à en avoir un nouveau, je resterai toujours un homme de bateau.
Nous allons bien sûr évoquer le roman qui nous occupe ce soir, à savoir La Remorque, donc roman que tu as fait paraître l'an dernier, en 2010, aux éditions Métayer. Est-ce que tu es né dans une famille de bateliers, de mariniers ?
Non, pas du tout.
Et comment ce choix ou cette vocation qui n'a été qu'éphémère, enfin éphémère, pas tant que ça, puisque bon, 10 ans, c'est pas éphémère, mais comment se fait-il que tu sois devenu marinier ?
Je ne peux pas y répondre précisément. Il n'y a pas un élément fondateur. Il y a un intérêt qui est devenu grandissant, jusqu'à occuper pratiquement tout l'écran de ma vie, jusqu'à ce que j'achète un bateau pour travailler avec. Et je suis allé ensuite d'émerveillement en émerveillement.
Alors tu as aujourd'hui, maintenant que tu es redevenu un terrestre ici à Auxerre, tu es dans la nostalgie de cette vie sur l'eau,
oui,
forcément.
Oui, un peu. Je me méfie de la nostalgie, même si c'est du carburant des fois de qualité pour un romancier. Néanmoins, c'est toujours un petit peu comme un échec dans une vie. J'ai toujours fui la nostalgie. Je préfère aimer ce que je vis que penser à ce que j'ai vécu. Mais c'est vrai que j'ai besoin des bateaux, j'ai besoin de l'eau qui bouge ou de l'eau dormante, mais ça m'est nécessaire.
Je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas que tu animes très régulièrement à Auxerre des ateliers d'écriture, mais aussi des ateliers en milieu carcéral, à la prison ou centre de détention de Joux-la-Ville. Alors, on n'aura pas l'occasion d'en parler trop longuement, en tout cas pas au cours de l'émission de ce soir, Bruno, mais rapidement, tu nous présentes l'atelier d'écriture que tu animes chaque semaine à Auxerre, et qui, atelier d'écriture qui a pour nom, les pieds nus, et au moment où nous enregistrons, tu es pieds nus, car tu marches toujours pieds nus, sauf dans la rue.
Oui, c'est Pieds nus, parce que c'est une façon d'être au monde que je trouve intéressante et qui s'applique aussi à l'écriture. Un atelier d'écriture, c'est pas un lieu où on va apprendre à écrire, c'est un lieu où on va plutôt libérer quelque chose, apprendre à marcher sans les contraintes des chaussures, apprendre à repérer son propre chemin, à développer sa propre foulée. C'est plutôt ça, un atelier d'écriture. Mais tu as raison, on va juste l'évoquer parce que je pourrais tenir 3 heures et t'arriverais même pas à en placer une.
Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau. D'un seul et sans hésitation, on se documente sur la navigation. En moins de 8 jours, nous fûmes persuadés que la mer pour nous n'aurait plus de secret. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Le père alors fit preuve d'autorité.
Je suis ingénieur, laissez-moi commander.
Devant le résultat, on lui a suggéré qu'un vrai marin vienne nous accompagner.
Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau.
Alors j'ai dit, je vais prendre la direction. Ancien marin, c'est la navigation. C'était prématuré. Faut pas confondre guitare et naviguer.
Encore heureux qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau. Encore heureux que la Marie-Joseph soit un bon bateau.
Au bout de 3 heures de notre exhibition, l'un nous se relève avec stupéfaction. Car on s'était pas beaucoup déplacé. Rapport à l'ancre qu'on n'avait pas remonté.
Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau.
Côté jeune fille, c'était pas mal.
Ça nous a coûté les coudes de grand voile.
En la coupant, Susan dit,
je me rappelle qu'un de mes louveteaux voulait de la ficelle.
Encore heureux qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau. Encore heureux, encore heureux que la Marie-Joseph soit un bon bateau.
La deuxième, fallait pas la laisser toucher la barre
ou même s'en approcher.
Car en moins de 2, on était vent debout.
J'aime tant l'expression,
disait-elle, pas vous.
Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau.
Quand finalement on a pu réparer, alors on s'est décidé à rentrer. Mais on n'a jamais trouvé l'appontement. Car à minuit, on n'y voit pas tellement.
Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un beau bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un beau bateau.
On y comme un marin breton, moi je peux vous dire que c'est pas mon impression. Car tous les gars du côté noir moutier ne sont pas prêts de s'arrêter de rigoler.
Les frères Jacques, à l'instant sur Radion, ils nous interprétaient la Marie-Joseph. Et vous écoutez l'émission Wagon Livre. Nous sommes ce soir en compagnie de Bruno Poissonnier pour évoquer son dernier ouvrage, La Remorque, paru l'an dernier aux éditions Métellier. Alors Bruno, l'écriture représente pour toi une très large partie de tes journées.
Oh, c'est devenu maintenant, pratiquement, professionnellement, c'est la totalité de mon temps. J'ai quelques abeilles. Parce que je ne pourrais pas vivre sans abeilles, mais je n'en vis plus, ce sont des animaux de compagnie.
Alors on va maintenant se pencher sur ton roman, Bruno Poissonnier, La Remorque. On rentre de plein pied dans l'univers de la batellerie, et avant de poser le décor, encore qu'il est déjà tout posé, mais avant de présenter les personnages et d'aborder l'histoire de ce savoureux roman plein d'odeurs et plein d'images, c'est un livre du voyage autour d'une famille, tu parles de la navigation à un moment comme d'une science.
Oui, c'est si le terrestre a tendance à imaginer la conduite d'un bateau, d'une péniche, puisque c'est le vocable terrestre, comme quelque chose d'aussi impliquant que de pousser une brouette, parce que des fois on voit passer des gens un peu bedonnants, Marcel, les pieds dans des chaussons, à la barre d'un bateau qui navigue à 5 ou 6 km heure. En réalité, c'est extrêmement technique. Il faut énormément d'intuition pour pouvoir, dans des eaux qui sont pas du tout libres, placer le bateau au bon endroit, au bon moment. Des bateaux peu motorisés par rapport à leur poids, avec un petit gouvernail. Donc c'est effectivement une science. Les bateaux dont je parle dans la remorque, qui sont les bateaux du gabarit Fraissinet, sont considérés comme les bateaux les plus difficiles à piloter.
Donc c'est à peu près une trentaine de longueurs.
38 mètres 50 par 5 mètres.
D'accord.
Donc, c'est le gabarit Fraissinet.
Donc science de la navigation. Donc avec ce roman La Remorque, on est à l'époque. On ne sait pas trop où ça se situe. C'est pas complètement intemporel, mais moi je pensais que c'était fin années 50, début années 60. J'ai mal.
Ça pourrait être. C'est entre, voilà, tu as raison, c'est entre les années 50 et la fin des années 80. C'est pas précisé, c'était pas nécessaire d'être précisé, c'est le début des soucis de cette batellerie-là, oui. Je le placerais plutôt dans les années 80.
Alors, 70-80. Dans Lyon, bien sûr, les auditeurs le savent, il y a bien sûr la rivière Lyon, il y a le canal de Bourgogne, il y a aussi le canal du Nivernais. Et en évoquant le périple de cette famille dans la remorque, alors je vais situer d'ailleurs situer l'histoire, il s'agit en fait de l'aventure d'un bateau qui s'appelle la Bièvre, sur lequel navigue une famille. Donc il y a le père Armand Armando, il y a son épouse Veline, et puis il y a les deux fils. L'un, l'aîné, qui se prénomme Paul, qui a été victime d'un arrêt de croissance et qui est finalement, de par cet incident physique, est handicapé, mais qui a quand même un don de prescience. Mmh. Et puis, il y a le jeune homme de 19 ans, qui est le héros dans l'ombre du père, qui se prénomme Laurent. Et donc, sur ce navire à la Bièvre, ils vont affronter le fleuve, mais pas n'importe quel fleuve, puisque la Bièvre est immatriculée ou enregistrée dans le Nord, à Béthune, et c'est une descente aussi en bateau sur le Rhône vers le sud de la France. Et donc c'est le combat entre guillemets, parce que c'est une aventure pleine de périls, c'est le combat d'une équipée à bord de ce navire, d'une famille, face aux éléments naturels et aux dangers du fleuve, et notamment une crue époustouflante, des vents, des grêles, c'est entre autres cela qui est raconté.
Oui.
Dans la remorque.
Oui, c'est un peu une allégorie des difficultés que rencontre cette batellerie-là qui meurt, où à un moment donné, ils se sont vus précipiter, les bateliers, dans un monde qu'ils ne savaient pas, qu'ils pressentaient comme allant leur devenir difficile, voire dangereux. La plupart ont disparu, pas physiquement. Et en même temps, lorsque des êtres humains sont confrontés à la violence élémentaire, dans le huis clos, en plus de la cabine d'un bateau, c'est souvent le moment où s'expriment les tensions, les aspirations, les réalités de chacun. Donc j'ai trouvé ce moment intéressant pour y faire vivre des hommes et une femme.
Alors, le père, qui est à la tête du navire, c'est lui qui tient la barre. Le père est un homme tout en force, il est le symbole de la virilité, de la force physique, avec une chevelure à la Beethoven. Et puis il y a, je disais, dans l'ombre, son fils, l'aîné, non, c'est pas l'aîné, c'est Laurent qui a 19 ans, il est dans l'ombre du père, et en suivant la Bièvre, cette péniche, on peut dire péniche ou faut dire bateau?
Les mariniers disent bateau.
Bon, alors.
Mais les gens d'Atterre disent péniche. Mais on peut dire les deux.
Bon, me voilà rassuré. En suivant le parcours de la Bièvre, de ce bateau sur le Rhône, finalement, il y a ce huis clos familial et il y a ce duel, non seulement de la Bièvre, du bateau, avec le fleuve, et le duel entre le père et le fils. C'est aussi un conflit de génération et de vision du métier de batelier qui s'oppose.
Oui, tu l'as bien dit. C'est ce fils qui a été naturellement à la remorque de son père, qui a une personnalité pas très souple mais imposante, à un moment donné cherche à rompre la tâche et à naviguer par lui-même dans ses idées, dans sa vie, et il cherche à contraindre son père à moderniser le bateau. Et le père, qui a déjà posé un moteur dans ce bateau qui autrefois n'était que tractionné, a l'impression qu'il ne peut pas faire plus fort que ce qu'il a fait. Et il accepte mal d'être dépassé par son gamin qu'il n'a peut-être pas encore vu grandir. C'est très classique, ce sont des histoires d'hommes là qui ne sont pas propres à la batellerie. Ça s'inscrit dans la réalité batelière, mais c'est plus universel. Quand il y a un père et quand il y a un fils qui grandit, ce sont des choses qui se présentent naturellement.
Parce que derrière, effectivement, la description des paysages, les senteurs, la luminosité, il y a parfois vraiment comme des peintures que tu sais particulièrement rendre dans ce texte. Derrière ces visions séduisantes et dangereuses de la vie de cette famille marinière sur la Bièvre, j'allais dire, c'est aussi un roman sur le rapport père et fils. Et je me disais, est-ce qu'il y a une part personnelle? Est-ce que Bruno Poissonnier, qui remercie son père à la fin du livre, est-ce que Bruno, qui a rencontré des rapports difficiles avec l'école, avec ses maîtres, est-ce que Bruno a aussi été en conflit avec son père et qu'il y aurait une part largement autobiographique dans le duel duel un peu étrange entre le père et le fils?
Peut-être pas autobiographique, mais où je suis, oui, certainement concerné. J'ai effectivement été en rébellion contre l'école, et je crois que je l'ai été contre toute forme d'autorité, et c'était certainement une projection de ce que je vivais ou que je ne pouvais pas vivre avec mon père. Dans le sens où j'ai eu un père pas facile, et je me sens des points communs avec Laurent, mais c'est pas mon histoire. Je pense que c'est l'histoire de beaucoup de fils de ma génération avec leur père.
Du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis, quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui affardeux, qui tout le temps se font des cheveux, et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles,
Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Je pense que vous aurez reconnu Jean Gabin, il nous interprétait « Quand on se promène au bord de l'eau », une chanson extraite du film de Jean Duvivier, « La belle équipe » en 1936. Nous aussi, d'une certaine manière, nous nous promenons au bord de l'eau ce soir sur Radion avec notre invité Bruno Poissonnier, venu nous parler de son dernier texte, « La remorque », paru aux éditions Métellier.
Toujours à l'écoute de Radion, la suite de Wagon Livre, votre escale littéraire, proposée et présentée par Yannick Petit, chaque mercredi à 21h, sur votre radio locale.
En lisant La remorque, on n'est jamais égaré d'un point de vue vocabulaire, puisque le livre, à la fin, propose un glossaire, donc c'est extrêmement documentaire, dans lequel on retrouve tous les termes techniques et spécifiques à la batellerie. Je disais combien tu savais ressusciter, alors évidemment l'expérience est là, les souvenirs sans doute, la sensualité, les odeurs sont très présentes, les couleurs, je disais, des visions extrêmement picturales. Est-ce que tu aurais la gentillesse, s'il te plaît Bruno, de nous lire un passage de ton roman, dont je rappelle le titre, hein, La remorque, aux éditions Métellier. Est-ce que tu veux nous donner une impression à travers la lecture d'un passage de ton roman?
On était à la fin de juin. De gros orages espérés intriguaient tout autour du delta, le ceinturant de montagnes gigantesques et mouvantes. Des dômes éblouissants se formaient, enflaient en immenses montgolfières que les vents d'altitude tourmentaient et aplatissaient en enclumes. On attendait qu'ils purgent l'air de toute l'électricité qui s'y était accumulée depuis une dizaine de jours, depuis qu'une chaleur épaisse, suffocante, pétrie par un feu turbulent, avait écrasé la région. Une lumière orangée, engendrée par des poussières de sable suspendues dans un air épais comme de l'huile, présidait à la nature des jours, excitant les temps et les mouches noires, exaspérant hommes et bêtes. La Camargue vibrait comme une chatte énervée, et Aigues Mortes suffoquait dans ses remparts. Sur le canal, au quai du Sel, une péniche achevait d'être chargée. À l'arrière, sur un panneau de bois propret, en lettres appliquées, était inscrite la devise du bateau et quelques précisions administratives.
Un extrait de La remorque, le roman de Bruno Poissonnier, notre invité ce soir dans Wagon Livre sur Radion. Histoire, enfin, chronique marinière, chronique aussi familiale, et arrive le moment, le temps de crise dans le roman, c'est-à-dire cette crue colossale face à laquelle la Bièvre doit faire face, mais qu'elle ne pourra pas faire face seule. C'est là qu'intervient la solidarité aussi dans ce monde de la batellerie, avec un autre bateau canadien
qui va remorquer la Bièvre. Et c'est le titre du roman, La Remorque. La Remorque, c'est aussi, bien évidemment, une manière de montrer que la Bièvre a ses faiblesses, et c'est aussi un grand moment d'humiliation pour Armand Armando, le père et propriétaire de ce navire, parce qu'il se rend compte qu'après 40 ans de métier passé à la barre de ce navire, au bout de 40 ans, il connaît l'humiliation d'être aidé, d'être remorqué par un navire. Et justement, Bruno Poissonnier, La Remorque, bien sûr, c'est un hymne à la solidarité entre bateliers, mais c'est aussi, ce que tu disais au début de l'émission, il y a cette science de la navigation, tu insistais sur le fait combien c'était dangereux, et finalement, naviguer sur un fleuve, ce n'est pas anodin, ce n'est pas banal, et c'est loin d'être simple, contrairement à ce que pourraient faire croire aujourd'hui différentes publicités alléchantes sur le tourisme fluvial, car on y revient un peu.
C'est très différent de naviguer avec un bateau de commerce sur un fleuve en crue et passer des vacances sur le canal de Bourgogne ou le canal du Nivernais.
À bord d'un petit bateau électrique.
À bord d'un bateau de plaisance. Heureusement pour les plaisanciers, ils ne courront pas de risques majeurs pendant leurs vacances. Mais là, au mois de janvier de cette année, un chimiquier sur le Rhin a coulé et il y a deux disparus. Donc ça reste un métier de toute façon dangereux. Et ces dangers, les bateliers les connaissent et les acceptent totalement. La solidarité, elle naît, elle existe aussi parce que c'est un métier dangereux. Et l'humiliation pour Armand Armando n'est pas tant d'être secouru que de se retrouver dans une situation qui était celle de son enfance et celle de ses parents, quand les bateaux n'étaient pas autrement que tractionnés. Les péniches de l'époque n'avaient pas de moteur et étaient confiées à la sollicitude d'un câble relié. Ça pouvait être une mule, un cheval, un tracteur, un remorqueur. Et le batelier était dépendant de toutes ces remorques-là. Et Armand s'était affranchi à l'âge de son fils de cette contrainte-là en motorisant ce qui était un pari, parce que ça coûtait très cher, un pari sur l'avenir. Il avait motorisé son bateau. Et là, pratiquement à la fin de sa vie, il se retrouve dans une situation où il est encore dépendant.
Alors, les dangers, bien sûr, sont là. L'entraide est très présente également. Et ce qui est terrible pour le père, Armand Armando, c'est, je te cite, de finir capturé comme un espadon. Et là, tout de suite, je suis obligé de mentionner que la référence à l'espadon me paraît être, et ça, tu me l'as confirmé, un clin d'œil évident au roman de l'écrivain américain Hemingway, Le vieil homme et la mer, où là encore, c'est le combat entre un pêcheur cubain et la mer, l'océan et l'espadon. Et dans La Remorque, c'est le combat, un peu avorté d'ailleurs, entre Armand Armando et le fleuve. Et Hemingway, cette année, en 2011, on va fêter le 50e anniversaire de la disparition.
Tout à fait. Je pense que le clin d'œil n'était pas voulu. Il aurait été prétentieux de ma part de faire un clin d'œil à Hemingway. Par contre, je pense qu'indirectement, je lui rends hommage parce qu'il est rentré avec ce livre, Le vieil homme et la mer. Il est vraiment dans le patrimoine commun à tous les hommes. Et je pense que le mot espadon est venu, s'est imposé dans cette phrase sans que je réfléchisse à Hemingway.
Mais il y a beaucoup de clins d'œil dans ton roman La Remorque, Bruno. Par exemple, il y a des références, parfois à la mythologie. À un moment, l'eau, dans son côté envoûtant, tu parles des chimères et ne pas céder aux tentations de l'appel des sirènes. Or, l'Odyssée d'Homère, Odysseus en grec, veut dire le voyage. Or, la remorque, c'est bien sûr le récit d'un voyage. Et il y a des clins d'œil comme ça, un fond culturel. Je te disais que, par exemple, la mère, Veline, épouse d'Armand Armando, est souvent une femme douce, musicienne, donc c'est celle aussi qui, apporte une ambiance qui rassemble tout le monde dans la convivialité et l'allégresse. Veline est souvent en train de coudre, et je te disais qu'elle me faisait penser à la Pénélope, la sage épouse d'Ulysse, qui attend son mari, qui effectivement a connu quelques désagréments. Et tu me dis, non, il n'y a pas spécialement eu de clin d'œil, en tout cas pas direct à Pénélope.
Sans doute pas conscient. Veline n'a jamais été séparée de son mari, et c'est là aussi une des spécificités de la vie de batelier, c'est qu'ils ont passé leur vie côte à côte 24 heures sur 24, avec jamais plus de 38 mètres de distance entre l'un et l'autre. Veline, elle est celle qui assure la cohésion
des trois hommes, parce qu'il y a trois hommes et une femme, et un chat, Mousse, n'oublions pas le chat,
oui.
C'est important.
Elle est la gardienne de la famille. Elle en est à la fois l'origine, le souffle et la gardienne.
Un peu la vestale.
Sauf que les vestales, je pense, n'avaient pas beaucoup d'enfants. et que le côté maternel de Veline est important.
La cabine, tu montres la cabine comme étant une sorte de ventre maternel chaud. L'eau rappelle... Finalement, les hommes, ils sont dans cette cabine, qui est une sorte de ventre maternel. L'eau, c'est aussi l'élément un peu matriciel de tout être humain. Mais la virilité est omniprésente. C'est un roman très viril, avec beaucoup de descriptions qui renvoient à une sensualité, à des appels comme ça du féminin, de la nature généreuse. Pas toujours réconfortante, parce que la nature se déchaîne.
Je pense qu'on peut être viril et être sensuel, on peut être viril et être sensible. Si tu qualifies le roman de viril, ce qu'il est sans doute, j'espère que ça reste aussi un roman sensible et sensuel.
Oui, parce que Armando est capable d'avoir, à la fin, des larmes qui coulent sur l'oreiller.
Oui.
Bon, parce qu'il a un petit peu trop bu aussi.
Ça a dû l'aider, et puis je pense que ces journées terrifiantes qu'il vient de vivre ont certainement fissuré aussi son enveloppe, son écorce un peu bourrue, et il éprouve moins le besoin certainement de se présenter comme tel, comme un roc à ses enfants. Le passage du témoin est fait, la transmission est engagée avec son fils, il n'a donc plus besoin de montrer ses muscles.
Le temps d'une chanson pour marquer une petite pause, Nostalgie sur les ondes de Radion, en compagnie de Lise Gotti, de son vrai nom Alice Gauthier, née en 1900. Elle nous interprète une célèbre chanson de son répertoire, Le chaland qui passe.
C'est faite, la berge s'estompe et se perd. Un bal musette, une auberge ouvre leurs yeux pères. Le chaland glisse sans trêve sur l'eau de Satin. Où s'en va-t-il, vers quel rêve, vers quel incertain du destin? Sur mon chaland, sautant d'un gué, l'amour peut-être s'est embarqué. Aimons-nous ce soir sans songer à ce que demain peut changer. On file de l'eau, point de serment. Ta bouche est triste et je pense à ces fruits mûris. Loin du soleil qui dispense leur chaud coloris. Mais sous ma lèvre en fiévrille par l'eau et le vent, je veux la voir en pourprie comme au jour levant. Les eaux vont, ne pensons à rien, le courant fait de nous toujours des errants. Et sur mon chaland sautant d'un quai, l'amour peut-être s'est embarqué.
Retrouvons notre invité ce soir sur Radion, Bruno Poissonnier. Il est l'auteur de La Remorque, disponible aux éditions Métellier, dont il est largement question dans votre rendez-vous littéraire hebdomadaire. Wagon Livre, c'est chaque mercredi à 21h. Bruno, continuons avant de nous quitter, parce que l'entretien doit malheureusement se terminer, et je pense qu'on pourrait être beaucoup plus bavard que cela. Je souhaiterais peut-être que tu reviennes sur un passage du roman, puisque les auditeurs ont bien compris qu'il s'agit du remorquage, on peut dire remorquage ? Oui, remorquage, oui, hein, le remorquage donc de la Bièvre, qui est le bateau de la famille Armando, qui est remorqué donc sur le Rhône, enfin une partie du Rhône et autres fleuves, par un bateau canadien, et ils sont remorqués dans des conditions climatiques et atmosphériques absolument époustouflantes qui leur offrent une vision hallucinatoire, puisqu'ils sont remorqués dans un brouillard qui leur empêche de voir ce qui se trouve à la fois sur les berges à gauche, à droite et devant eux.
Voilà, il faut savoir ce qu'est un épisode cévenol, ces orages terrifiants qui s'abattent dans le sud de la France sur les Cévennes, qui produisent des quantités d'eau, de vent, de grêle extravagantes.
Et les courants du fleuve aussi.
Voilà, donc les cours d'eau sont très vite en crue. Et là, ils sont en remorque d'un bateau plus puissant qu'eux. Et ils savent, ils ont quitté l'écluse de Beaucaire. Ils savent que la prochaine, c'est celle d'Avignon, que normalement, ils devraient toucher, on va dire, dans 3 heures. Et puis, les heures passent. 3, 5, 7, 10 heures, ils sont toujours remorqués, ils auraient dû normalement depuis très longtemps atteindre l'écluse, donc ils se demandent s'ils sont encore sur le fleuve.
Alors peut-être, Bruno, pourrais-tu nous donner lecture du passage où justement tu nous offres cette vision hallucinatoire, vision qui s'offre donc aux passagers du bateau La Bièvre, extrait de ton roman La Remorque aux éditions Métellier.
La pluie n'avait pas cessé. La pluie ne cesserait jamais plus. Ils étaient perdus. Ils se relayaient au macaron, s'appliquant à effacer tout angle entre eux et le câble, sans vraiment croire que cela pouvait être encore nécessaire ou même utile. Soulagés seulement de pouvoir agir. La nuit venait. Avec le crépuscule, les averses semblèrent diminuer et les vents s'essoufflèrent. Puis il n'y eut plus de pluie. Il se fit comme un grand silence d'eau. Un brouillard épais se coula aussitôt dans le lit défait de la tempête, se glissa autour d'eux, les enveloppant comme une papillote. Il glissait à présent dans de l'étoupe, dans un cocon opaque et mystérieux, tracté par un filin qui sortait de nulle part, pour les emporter vers un ailleurs qu'ils ne savaient pas. Aucune lumière, aucune étoile, aucun astre ne venait les distraire des lugubres pensées qui les oppressaient. Pour eux, ils en étaient désormais sûrs, ils avaient quitté le monde.
Ils avaient quitté le monde. Alors j'ai pensé, vois-tu Bruno, avec cette vision du brouillard qui entoure le navire, le bateau sur le fleuve, j'ai pensé, si tu veux, à une sorte de traversée, bien sûr, mystérieuse, fantomatique. Ça m'a rappelé un épisode encore mythologique, tu vas peut-être contester cette référence, mais ça m'a rappelé, vois-tu, le passage du Styx pour aller au séjour des morts, et ce brouillard, ce navire qui cherche un peu ses racines et où aucune vie autour de lui ne semble être un signe rassurant.
Ça fait plaisir que ça t'ait évoqué ça. Je pense que Armando en parle plus loin. Lui, il a comme représentation plutôt le triangle des Bermudes, qui est plus dans sa culture, ce lieu où des bateaux disparaissent totalement, ce qu'il a compris être une porte vers un ailleurs inconnu. Et tout leur sens les convainc qu'ils ont quitté le monde.
J'ai dit tout au long de notre échange, Bruno, qu'il s'agissait d'une chronique marinière, que ton roman La Remorque est aussi une chronique familiale, et je pense qu'on ne peut pas se quitter sans évoquer la symbolique de ce filin, qui donc est le trait d'union entre la Bièvre et le bateau qui remorque le navire de la famille. Ce filin, bien sûr, il est salvateur, c'est lui qui permet à la Bièvre de remonter le fleuve, et il y a cette symbolique qui s'applique au rapport entre le père et le fils qui ne veut plus être, donc le fils Laurent, qui ne veut plus être à la remorque de son père, c'est-à-dire un fils qui veut s'émanciper, de la tutelle paternelle et qui veut, un peu à la manière des aspirations rimbaldiennes, partir sur les chemins de l'autonomie, de l'indépendance et donc de la liberté.
Oui, je pense que cette allégorie du câble, ce qui à la fois nous donne de la puissance, souvent nous enchaîne. Et il y a l'expérience peut-être la plus commune à tous de cette dépendance au père, aux parents, qui à la fois nous tracte mais nous relie, dans le sens profond de relier. Et dans toutes nos vies, je pense qu'on va souvent changer de filin. On va se faire tracter par des passions, des êtres différents. Et à chaque fois, on a à s'interroger sur ce rapport entre cette puissance qui nous entraîne et notre liberté qui en est malmenée.
Et ce filin, il est aussi un auxiliaire, puisque notamment dans les remerciements à la fin de ton roman, il est écrit avec une tendresse supplémentaire pour Bruno Savin, qui voulut bien être le remorqueur de ce premier voyage. Bruno, tu as d'autres textes dans les tiroirs qui attendent d'être publiés ?
Ah oui, oui. Oui, j'en ai dans les tiroirs, j'en ai en cours. Oui, je...
Et pas forcément sur la batellerie.
Plus j'en ai beaucoup sur la batellerie, parce que c'est un monde qui m'a énormément marqué, et qu'il y a beaucoup de choses à en dire et à sentir et sur la batellerie, et d'autres qui... Oui, j'ai peut-être réussi à m'émanciper un petit peu de la batellerie.
Revenons un petit peu sur cette littérature autour de la batellerie. Tu me rappelais précédemment qu'il y a eu cette série au moment des riches heures de la télévision française, il y a eu cette série L'Homme du Picardie avec Christian Barbier. Et puis, après au niveau des personnages, il y a la chanson de Brel, L'Éclusier, il y a dans les polars de Simon, bien sûr, il y a cette ambiance toujours du canal, des quais qui contribue à une ambiance particulière.
Oui, étrangement, il y a assez peu d'écrivains qui se sont inspirés au milieu de la batellerie, peut-être parce qu'il n'est pas connu. Il y a des écrivains qui en sont issus directement. Il y a quelques auteurs qui ont parlé souvent de livres autobiographiques. Mais c'est un milieu très riche et qui n'a sans doute pas été assez exploité, en tout cas dans la littérature. Mais L'Homme du Picardie dont tu parlais... a laissé une grande trace.
Avant de nous quitter, je vous rappelle le titre du roman de notre invité. Il s'agit de La Remorque, signé Bruno Poissonnier, et ce livre est disponible aux éditions Métellier auprès de vos libraires habituels. Quelques manifestations et événements culturels et littéraires en Bourgogne. Tout d'abord, à la bibliothèque Jacques Lacarrière, vendredi prochain à 19h30 à l'auditorium, on vous proposera des lectures des chroniques d'Alexandre Vialat, lues par le comédien Hugues Kester. Effectivement, dans le cadre de l'année Vialat, il s'agit d'une soirée avec la bibliothèque municipale. C'est dans quelques jours, donc vendredi 27 mai à 19h30 à la bibliothèque d'Auxerre. Le samedi 28 mai, toujours à la bibliothèque Jacques Lacarrière d'Auxerre, mais à 16h, est programmée une rencontre avec Anne-Marie Grosser autour des chansons de la tradition populaire qui ont jalonné l'histoire de France de l'homme de Cro-Magnon à la fin du 19e siècle. C'est à l'auditorium et l'entrée est libre. Samedi 28 mai prochain, cette fois-ci dans la Nièvre, à Clamecy, à la médiathèque François Mitterrand, l'association des amis de Claude Tillier a le plaisir de vous convier à la conférence de Annick Paparella, professeur honoraire, conférence qui aura pour thème Jules Verne et qui a pour titre Jules Verne, le sphinx aux bras croisés. C'est le 28 mai prochain à 15h à la médiathèque François Mitterrand de Clamecy. Je mentionne le 29 mai prochain la parution du nouveau recueil de nouvelles de Alain Quévès. Alain Quévès qui a fait paraître son premier texte en 1990 et qui a reçu en 1997 le prestigieux prix Prométhée de la nouvelle. Il est rédacteur de critiques littéraires pour plusieurs revues et magazines et il a créé en 2001 à Auxerre l'association La Soie des Vers et il a créé quelques années plus tard, en 2004, les éditions Rhubarbe qui sont installées à Auxerre. Donc, à mentionner ce nouveau recueil de nouvelles signé Alain Quévès, recueil de nouvelles qui a pour titre « Ce n'est pas mon visage » aux éditions Encre Vagabonde, le bruit des autres. On y retrouve les thèmes chers à Alain Quévès, l'approche de la mort et des rendez-vous manqués, le couple et le désamour, l'enfance et sa parfois douloureuse découverte du monde. À mentionner aussi la parution du dernier numéro de Pays de Bourgogne, c'est le numéro 228, revue trimestrielle, avec notamment dans sa dernière édition un dossier consacré à un personnage bourguignon unique par son histoire, Jean-Bernard Bossu, qui a passé sa vie de militaire à se rapprocher des Indiens Arkansas, notamment lorsque la Louisiane était française. Pays de Bourgogne, dirigé par Christian Colombet, donc le dernier numéro, disponible en kiosque. Autre magazine associatif que nous aimons particulièrement, c'est Vent du Morvan, avec notamment dans ce numéro de printemps, un dossier consacré au 50e anniversaire du prix littéraire du Morvan et aussi un très bel article signé Geneviève Peignet consacré aux éditions de la Goulotte, installées donc au hameau de la Goulotte au pied de Vézelay. Eh bien Vézelay, il en est aussi question à travers la librairie L'Or des Étoiles que dirigent Francette et Laurent Equet. Effectivement, ces libraires vous convient, mais alors vous avez le temps quand même, mais vous pouvez le noter sur votre agenda, le 16 juillet prochain, ils vous convient à une séance de dédicace avec Frédéric Lenoir et Violette Capzos. Effectivement, ils font paraître un nouveau roman, un thriller historique et métaphysique qui a pour titre La parole perdue aux éditions Albin Michel. Ils dédicaceront donc tous deux leur livre écrit à quatre mains le samedi 16 juillet prochain. C'est à Vézelay et notamment à la librairie L'Or des Étoiles. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 21h pour un nouveau numéro de Wagon Livre au cours duquel je recevrai Bernard Moreau-Gaudry, sculpteur. Il habite à Autun et il viendra nous parler de son roman historique La Tentation d'Ève. Merci encore de votre fidélité. Excellente fin de soirée à l'écoute de Radion. À mercredi prochain. Au revoir.